Bonjour et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval, une émission consacrée aux équidés et à leur univers. La sortie d'une nouvelle adaptation cinématographique du roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, nous a donné envie d'en savoir plus sur cette unité de cavalerie à laquelle ils appartenaient et sur les chevaux qu'ils montaient. Pour écrire ces Trois Mousquetaires, roman feuilleton dont les premières pages sont parues le jeudi 14 mars 1840 dans le journal Le Siècle, Alexandre Dumas s'était imprégné des chroniques du XVIIe siècle, notamment celles de François de La Rochefoucauld, de l'Homénie de Brienne et des mémoires de Monsieur de D'Artagnan, mémoires apocryphes rédigées par Gratien Courtils de Sandras. Ces quatre héros, D'Artagnan, Porthos, Amis, Aramis et Athos, sont pris dans des intrigues visant notamment à discréditer la reine Anne d'Autriche aux yeux de son époux, le roi Louis XIII. C'est la fameuse affaire déférée de la reine, ces bijoux qu'elle aurait offerts à son soupirant, le duc de Buckingham. Cet épisode n'a pas été imaginé par Alexandre Dumas. Il lui a été inspiré par les écrits de François de La Rochefoucauld, qui en relate l'histoire. Georges Villiers, duc de Buckingham, s'était en effet bien rendu à Paris, mais pour chercher Henriette de France, la sœur de Louis XIII, promise au roi Charles Ier d'Angleterre qui lui avait confié cette mission. Il tenta de séduire Anne d'Autriche qu'il avait connue en Espagne à l'époque où elle vivait à la cour de son père, le roi Philippe III. Des années plus tard, elle accorde donc au duc une audience le 24 ou 25 mai 1625 et accompagne sa belle-sœur jusqu'à ce que celle-ci embarque pour l'Angleterre, comme le voulait la tradition. Le duc aurait été particulièrement entreprenant à cette occasion à Amiens. Pour rester néanmoins en bon terme avec Buckingham, la reine lui aurait ensuite fait remettre les fameux ferrets par l'entremise de la duchesse de Chevreuse, comme celle-ci le raconte dans ses mémoires. Cette histoire cache par ailleurs une affaire d'espionnage international auquel est associé le peintre Rubens, chargé de soumettre à Buckingham un projet d'alliance anglo-espagnole dont l'a chargé l'infante des Pays-Bas. Selon le duc de La Rochefoucauld, de son côté, Richelieu utilisait les services de la comtesse de Carlisle à Londres qui le tenait au courant de tout ce qui s'est tramé. C'est elle qui aurait dérobé les ferrets pour les transmettre au cardinal et qui sera immortalisée par Dumas sous le nom de Milady. Ce sera le début d'une haine farouche entre la reine Anne d'Autriche et Richelieu. Mais revenons aux quatre héros de cette histoire. Ils sont inspirés eux aussi par des personnages historiques. Armand de Silègue, d'Athos, d'Hauteville, Isaac de Porto, Henri d'Aramitz et Charles de Batz. Tous sont originaires de Gascogne et ont rejoint la compagnie des mousquetaires au cours des années 1640. Qui sont ces mousquetaires? Il s'agit de soldats d'élite rattachés à la maison du roi. En 1622, Louis XIII offre face aux rébellions huguenotes, celles des protestants du royaume de France. Il détache alors 50 soldats de la compagnie des chevaux légers de sa garde afin de former une unité indépendante. Leur nom de mousquetaires vient du fait qu'ils utilisent le mousquet, une arme que l'on ne peut utiliser qu'à pied, mais les soldats ne s'en déplacent pas moins à cheval. Comme l'explique Olivier Renondon, commissaire de l'exposition M Mousquetaires qui vient d'ouvrir au musée de l'armée aux Invalides, je cite, les mousquetaires sont des soldats qui participent à la fois aux fastes de la cour et notamment aux escortes royales. Ce sont eux qui galopent en premier devant le carrosse du roi quand le roi est en voyage ou en déplacement. Mais ils sont également chargés de missions qui sont un peu équivalentes à celles de nos troupes de choc aujourd'hui. Notamment, ce sont eux qui combattent au premier rang de l'infanterie royale à l'occasion des sièges. C'est d'ailleurs au cours du siège de Maastricht que Charles Augier de Batz, qui était entré chez les mousquetaires en 1633 sous le nom d'Artagnan, celui de sa mère, meurt en 1672. À sa création, la compagnie compte 50 gentilshommes, souvent issus de la noblesse gasconne des Argentés. Ainsi, Armand de Silègue d'Athos d'Hauteville était le cadet de sa famille et ne pouvait espérer recevoir des terres. Il n'eut d'autre choix que d'entrer dans l'armée ou dans les ordres. Il entra donc au régiment des mousquetaires en 1640. Charles de Batz est le quatrième fils d'une famille de sept. Il choisit donc la carrière des armes et serait entré dans la compagnie des mousquetaires en 1644 où servait déjà un de ses frères. Comme l'explique Olivier Renaudon, Le service militaire est le seul moyen pour eux d'arriver. Et pour arriver, il faut se faire remarquer. Donc, se battre en duel, être volontiers indiscipliné, être volontiers turbulent, c'est un moyen aussi de se faire connaître. Les mousquetaires sont donc des escrimeurs turbulents. On pense d'ailleurs qu'Armand de Silhac d'Athos est mort jeune après s'être battu en duel. Les mousquetaires sont reconnaissables à leur célèbre casaque bleu ornée de quatre croix de velours blanc à fleurs de lys, signe qu'ils appartiennent à la maison du roi. Elle leur servait de manteau. Plus tard, ils porteront un uniforme rouge écarlate et bordé d'or avec des manches et un col satiné de blanc et de dentelle, ainsi qu'un chapeau au panache blanc. Sur les conseils de Louis XIII, le cardinal de Richelieu avait créé sa propre garde de mousquetaires chargée d'assurer sa sécurité. C'est peu dire que le cardinal comptait beaucoup d'ennemis. Sa garde porte une casaque rouge à croix blanche et escorte le cardinal partout où il se rend. Ils dépendent directement de lui, alors que les mousquetaires du roi ne dépendent que du roi, qui est d'ailleurs leur capitaine. La première compagnie du roi fut supprimée en 1646 sur les ordres du cardinal Mazarin. Elle fut rétablie en 1657 par Louis XIV et doublée en 1660 par une seconde compagnie, celle des gardes du cardinal, que Mazarin offrit au roi pour son mariage. Désormais, les deux compagnies portent le nom de mousquetaires du roi et elles sont étroitement associées à leurs chevaux. En effet, Louis XIV voulait que les mousquetaires montent tous des chevaux ayant une même robe au sein de leur compagnie. Dès 1657, les mousquetaires de la première compagnie deviennent les mousquetaires gris, car ils montent des chevaux gris. Vers 1665, ceux de la seconde compagnie deviennent les mousquetaires noirs, car ils montent des chevaux noirs. En 1658, D'Artagnan devient sous-lieutenant dans la première compagnie, un des grades les plus importants, celle des mousquetaires gris. Chaque compagnie compte 250 mousquetaires. Les deux compagnies étaient installées à Paris. La première fut casernée au faubourg Saint-Germain, où elle résidait avant 1646, et la deuxième prit ses quartiers faubourg Saint-Antoine. Par décision de Louis XIV, les mousquetaires et leurs chevaux devaient loger chez les bourgeois. Alors rappelons que sous l'Ancien Régime, il s'agit d'un statut juridique octroyant des droits et imposant des devoirs aux certains habitants des villes. Chaque maison désignée devait accueillir deux mousquetaires accompagnés de leurs valets et de leurs chevaux. Mais toutes les maisons ne possédaient pas les infrastructures nécessaires à l'accueil des chevaux, car il fallait qu'elles aient des portes cochères, des cours intérieures et des écuries. Aussi, si les bourgeois n'en disposaient pas, ils devaient louer des places dans une écurie et subvenir à l'entretien des chevaux. Cela n'était commode ni pour les bourgeois ni pour les mousquetaires, dont les chevaux se trouvaient ainsi dispersés dans les deux quartiers de Paris. Aussi, le 28 mai 1659, le roi décida d'installer la première compagnie dans une ancienne halle, dite la halle Barbier. Les bâtiments furent aménagés afin d'accueillir les chevaux au rez-de-chaussée, les chambres des mousquetaires étant installées aux étages. Le roi ordonna d'établir autant d'écuries que possible et d'en construire d'autres dans les anciennes boutiques adossées à la halle. Les travaux furent achevés en 1674, date de l'installation des derniers chevaux et mousquetaires gris. Nous allons maintenant écouter la fanfare pour le carrousel royal composée par Jean-Baptiste Lully à la gloire de Louis XIV.
Thank you.
Autrefois, les chevaux de la première compagnie logeaient, il fallait s'occuper de ceux de la deuxième compagnie, celle des mousquetaires noirs. Il fut d'abord installé dans une grange à Reuilly, qui jouxte le faubourg Saint-Antoine, aujourd'hui dans le 12e arrondissement de Paris. Cela dispensait les habitants de loger et chevaux et mousquetaires. Mais le mauvais état du lieu et le fait que les mousquetaires ne vivaient pas avec leurs chevaux poussèrent le roi à l'administration de la ville de Paris à faire édifier un hôtel pour les mousquetaires noirs. Il fut construit rue de Charenton, à une centaine de mètres de la Bastille. Le bien-être des chevaux avait été pris en considération, car le terrain choisi, je cite, était « l'endroit le plus commode pour les chevaux des mousquetaires par la proximité de la rivière ». C'est à Jules Hardouin Mansart, premier architecte de Louis XIV, que fut confiée la réalisation des plans. Les écuries furent les bâtiments réalisés en priorité, les chevaux aménageant 4 ans avant les mousquetaires. Ces écuries comportaient plusieurs subdivisions. En effet, les chevaux étaient répartis en fonction des grades des cavaliers. Les officiers et bas-officiers avaient leurs propres écuries et les chevaux du reste de la compagnie étaient, eux, installés dans les grandes écuries. Les deux ailes et le corps central du bâtiment pouvaient accueillir 300 chevaux. Entre 1705 et 1708, on ajoutera 20 places supplémentaires lors de la construction d'une écurie pour les chevaux malades sur une parcelle suffisamment éloignée du bâtiment central afin d'éviter la contagion. Chaque écurie possédait un grenier où étaient entreposées les réserves d'avoine et le fourrage. Les chevaux étaient installés dans des stalles, chacune équipée d'une mangeoire, d'un abreuvoir et d'un râtelier pour le foin. Les écuries étaient gardées nuit et jour par un sous-brigadier et 4 mousquetaires relevés toutes les 12 heures. Avec l'aide de palefreniers, ils s'assuraient que les chevaux étaient nourris et pansés. Un maréchal Ferrand, qui faisait office de vétérinaire à l'époque, était installé sur place. Il bénéficiait d'un logement à l'étage et de son atelier au rez-de-chaussée. Un sellier et un armurier disposaient d'un atelier et d'un logement similaire. La ration journalière d'un cheval de mousquetaire était composée de 30 livres de foin et d'un boisseau et demi d'avoine, soit 14 kg de foin et 8 kg d'avoine. Pour le foin, c'est équivalent à ce que l'on donne aujourd'hui à un cheval de 600 kg qui travaille au moins 1 heure par jour. Par contre, pour l'avoine, la ration d'un cheval qui travaille tous les jours serait plutôt de 3 kg. Mais c'est une céréale plutôt délaissée de nos jours au profit de l'orge. Pour l'approvisionnement en eau, il existait des puits dans les cours et l'on pouvait avoir recours à celle de la Seine qui coulait à proximité. Les chevaux des mousquetaires étaient ainsi privilégiés car l'emplacement des écuries avait été bien pensé. À partir de 1670-1680, les compagnies de mousquetaires accueillirent des jeunes nobles qui y recevaient une formation militaire pratique avant d'obtenir une charge d'officier dans un régiment. Les mousquetaires allaient entraîner leurs chevaux dans des champs proches de Paris ou dans la cour du Louvre, Louis XIV dirigeant lui-même les exercices. Après la construction de l'hôtel des mousquetaires noirs, ceux-ci purent s'entraîner dans la cour des écuries qui devint un véritable manège. Été comme hiver, les chevaux travaillaient entre 3 et 4 heures par jour. Au cours du XVIIIe siècle, de nouveaux manèges furent construits, développant ainsi l'école militaire de mousquetaires. Par ailleurs, le roi utilisait les troupes montées de sa maison lors de missions de représentation, leur rôle étant de mettre en avant la gloire du souverain. Dans « Journal de voyage de deux jeunes Hollandais à Paris en 1656-1658 », Philippe de Villers écrit « Le roi avait commandé à ses mousquetaires de se pourvoir de chevaux gris, voulant que la compagnie en fût montée et qu'ils eussent la queue longue et couverts magnifiquement. » Visiblement, l'harnachement des chevaux impressionnait tous ceux qui croisaient les mousquetaires lors de ces sorties, ainsi que les tambours à cheval qui les accompagnaient partout. On appelait les mousquetaires pour amener l'ordre dans Paris en cas d'émeute, ce qui était fréquent au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais étant la troupe du roi, on ne les sollicitait qu'en dernier recours. Leur fonction était plus dissuasive que répressive. Que sait-on des origines des chevaux à l'époque ? À la fin du XVIIe siècle, l'élevage des chevaux est en crise. Les guerres de religion et les luttes de Richelieu contre les grands du royaume et les puissants protestants créèrent un climat d'insécurité désastreux pour l'élevage des chevaux. Dans son combat contre la noblesse, le cardinal ruine ainsi de nombreux élevages privés. La guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, qui oppose toutes les puissances européennes, l'exception de l'Angleterre et de la Russie, cristallise la crise qui touche toute l'Europe, celle de l'approvisionnement en chevaux. Il faut donc en aller en chercher loin et cela coûte beaucoup d'argent. Que sait-on des races des chevaux français ? Comme le souligne Bernard Denis dans son article « Les chevaux en France au XVIIIe siècle et les idées relatives à leur amélioration », je cite « Il est classique de distinguer en France les chevaux du Nord, destinés généralement au tirage, et les chevaux du Midi, petits, légers, nerveux, aptes uniquement à la selle. Depuis longtemps, le cheval navarin, le plus méridional, répandu en Navarre, Béarn et Bigorre, est renommé comme cheval de cavalerie légère. De petite taille, fin et léger mais rustique et très solide, il doit ses caractères à une parfaite adaptation à son milieu qui n'a pas été modifié par les apports répétés de sang arabe qui ont été effectués. Plus au nord, le cheval limousin a été volontiers considéré au XVIe et XIXe et XVIIe siècle comme le meilleur cheval de celle de France, voire d'Europe. Ses caractéristiques morphologiques étaient proches de celles du précédent, le milieu ayant là aussi façonné des animaux de petite taille à l'ossature fine. Il est volontiers rapporté que de tout temps, les éleveurs limousins auraient recherché des étalons barbes andalous, voire arabes. Des jugements peu flatteurs ont été portés sur l'état de la race au milieu du XVIIIe siècle, peut-être liés à des essais malencontreux de croisement ayant visé à en augmenter coûte que coûte la taille. Toutefois, dans les 20 dernières années de l'Ancien Régime, la situation se serait redressée grâce à l'action du haras de Pompadour et des croisements avec des étalons arabes et anglais qui permirent de retrouver des chevaux excellents et particulièrement résistants. Les chevaux de la Haute-Auvergne possédaient des caractéristiques voisines de ceux du Limousin et ont connu une histoire similaire au XVIIIe siècle. On peut donc ainsi penser que nos mousquetaires venant du Béarn auraient pour monture le cheval navarin. On peut aussi penser qu'en tant qu'escorte du roi, ils pouvaient aussi monter des chevaux plus puissants et plus impressionnants. L'historienne Odile Bordaz soulignait que D'Artagnan choisissait toujours les meilleurs chevaux pour ses hommes. Il faudra néanmoins attendre Napoléon et la réhabilitation des haras nationaux pour voir l'élevage des chevaux en France prendre une nouvelle direction. Les mousquetaires participeront à leur dernière bataille lors de la guerre de succession d'Autriche entre 1740 et 1748, guerre opposant la Prusse, la Bavière et la France à l'Autriche, la Grande-Bretagne, les Provinces-Unies et la Russie. En 1775, les deux compagnies sont dissoutes pour des raisons économiques. Elles seront brièvement recréées sous la Restauration avant de disparaître définitivement en 1816. Si vous voulez en savoir plus sur les mousquetaires, le musée de l'armée à Paris propose l'exposition M Mousquetaires jusqu'au 14 juillet. Vous pouvez faire d'ailleurs une visite virtuelle sur leur site. Pour préparer cette émission, je me suis appuyée notamment sur le remarquable article de Julien Villemard, des chevaux et des mousquetaires dans le Paris des XVIIe et XVIIIe siècles. Merci à Alexandre Dumas de continuer à nous faire rêver aux côtés de ces héros. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne semaine et vous dire à bientôt pour une prochaine émission.